Chapitre 12. Lazare. Steve est reparti. Nina s'est endormie. Je lis seule dans mon lit.
Le 1er septembre 1989. Chère Ophélie, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Du moins, je l'espère. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. J'ai retrouvé Aliot. Oui, Suzanne Buisson, celle que nous cherchons depuis 6 ans. Je t'explique en quelques mots. Je pensais qu'elle était décédée. C'était l'explication la plus logique à sa disparition. Mais comme je te l'avais promis, je continuais d'enquêter. Pour tout avouer, cela se limitait à lire chaque jour la rubrique nécrologique du Paris-Normandie, au cas où. Si j'y avais lu le nom de Suzanne Buisson, cela n'aurait pas été une très bonne nouvelle, tu t'en doutes. Il y a 5 jours, j'ai enfin lu son nom dans le journal, mais pas à la page que je redoutais. On parlait de Suzanne dans les infos locales. Canton de Clair, commune de Quincampoix. Comme chaque année, la mairie y fête les centenaires. 3 femmes de la commune avaient droit au champagne, au petit four et au discours du maire. Et l'une d'elles s'appelait Suzanne Buisson. Elle est vivante, Ophélie. Du moins, elle l'était encore la semaine dernière. Et elle habite très exactement la résidence des Coquelicots. Je dois t'avouer autre chose, une moins bonne nouvelle. Je suis malade. Même si je suis plus jeune que Suzanne, je ne suis pas certain de vivre aussi longtemps qu'elle. Je ne vais pas t'embêter avec mes douleurs et mes malheurs de vieux, mais c'est pour te prévenir. Je ne sors plus beaucoup de chez moi. Il va falloir que je me sépare d'Argo aussi, et il me sera impossible de me rendre à Quincampoix. Le bus, le car, la marche à pied, c'est désormais trop compliqué pour moi. À toi de jouer, Ophélie. Et de mon côté, je continue de chercher Misard, Valérie Petit. On ne sait jamais. J'espère tant que Suzanne a aperçu quelque chose ce soir-là et qu'elle l'a conservé dans sa mémoire. J'ai hâte de savoir. Je t'embrasse de toutes les maigres forces qu'il me reste, Ophélie. Lazare, ton vieil ami.
Steve m'a déposé 300 mètres avant la résidence des Coquelicots. Pas question qu'il ameute le quartier avec son pot d'échappement crevé. Attends-moi là. Il n'a même pas protesté. Pas plus qu'il n'a posé de questions quand je lui ai demandé de m'emmener à 20 km de Rouen sur son porte-bagages. Il a juste dit « prends ton temps », m'a adressé un grand sourire sans dents, s'est assis sur le trottoir, adossé à sa mob et a sorti son livre magique, rubrique « Justice », chapitre « Affaires non élucidées ». Il a l'air de pouvoir rester des heures ainsi. Je marche. Les pavillons du lotissement des Coquelicots ressemblent à des maisons de Lego, en juste un peu plus grand. Elles sont toutes construites sur le même modèle. Toit plat, pas d'étage, porte bleue au bout d'une petite allée de gravier, rose trémière pour colorer le crépi beige, fenêtre en vis-à-vis pour que tout le monde puisse se surveiller, et personne dans le quartier. Je ressens une impression bizarre en avançant. Je m'imagine que tous les habitants des Coquelicots sont cachés derrière leurs rideaux à me guetter. Dans quelle maison habite Suzanne Buisson ? Je vais devoir déchiffrer les noms de chaque boîte aux lettres. J'avance encore quand une voiture surgit dans mon dos. De la vie, enfin. La Renault 5 se gare à cheval sur le trottoir, visiblement pressée. Une femme en sort, la cinquantaine, mal coiffée, à peine maquillée, du genre qui se préoccupe plus des autres que d'elle. Elle pourrait être institutrice, éducatrice ou infirmière. Tu cherches quelqu'un, ma grande ?
L'aubaine.
Oui, Suzanne Buisson. Elle me regarde de la tête aux pieds comme si j'étais une extraterrestre. Première maison à droite, tu es de sa famille ?
De quoi elle se mêle, l'infirmière ?
Pas vraiment, plutôt une ancienne voisine. Ça n'a pas l'air de la rassurer. Elle m'ausculte encore du regard et doit finir par admettre que je ne représente aucun danger. Excuse-moi d'avoir l'air étonnée, mais cela doit faire plusieurs années que Suzanne n'a eu aucune visite. Tu sais, c'est rare les jeunes comme toi aux Coquelicots.
Pourquoi ?
Les Coquelicots, ce n'est pas exactement une maison de retraite, mais ça y ressemble, même si chaque résident possède sa maison. Et quand je ne suis pas là pour faire ma tournée...
Elle tourne la tête vers les fenêtres.
Chacun prend soin des autres. On commence à marcher en direction de la maison de Suzanne. Un chat blanc détale entre nos jambes. Je pense une seconde à Bolduc, pas plus. L'infirmière me déconcentre. Elle n'arrête pas de parler. Elle doit sûrement être habituée à monologuer.
Suzanne est notre plus vieille résidente. Elle a 100 ans depuis une semaine. Mais elle n'est arrivée au Coquelicot qu'il y a 6 ans. Elle habitait en ville avant. Elle a attendu une place pendant des années alors. Le jour où une maison s'est libérée, elle n'a pas traîné. Et c'est là que tu l'as connue? Dans son appartement de l'immeuble Sorano?
Elle m'épate, l'infirmière. Comment se souvient-elle de ça? Elle connaît par cœur le CV de tous ses retraités. On s'approche de la maison de Suzanne. Celle aux roses trémières les plus hautes. À part le chat qui nous suit à bonne distance, rien ne bouge dans le quartier.
Tu connais bien, Suzanne?
Aïe, l'infirmière vient de me poser la question piège. Quelle conne! J'ai préparé aucune réponse. Eh ben...
C'est comment ton nom?
Me demande l'infirmière pour me sortir de l'embarras. Après tout, je n'ai rien à cacher. Je lui balance juste mon prénom. Ophélie. L'infirmière s'arrête et me regarde comme si j'étais un fantôme.
Ophélie Crochet?
Merde, en plus elle connaît mon nom. Elle me sourit. Longuement. Puis elle me dévisage avec un regard de pitié que je n'aime pas. Le regard qu'ont sur nous les éduques qui débutent. Celui qu'elle doit avoir avec ses petits vieux quand ils sont en fin de vie.
Ophélie, ma petite, Suzanne me parle souvent de toi. Et de ta pauvre maman. L'accident a eu lieu juste avant qu'elle ne déménage. Elle a gardé tous les articles de presse. Suzanne perd la mémoire sur pas mal de choses aujourd'hui, mais cette nuit-là, elle s'en souvient. Tu sais, les conversations des personnes âgées, c'est un peu un feuilleton qu'elle raconte en boucle. Je ne devrais pas te dire ça, mais la nuit où ta maman est morte, c'est son épisode préféré.
On s'est retrouvés chez Suzanne Buisson. On est toutes les trois, Madame Pietralba, c'est le nom de l'infirmière, Suzanne et moi. La télé est allumée sur une série, peut-être Santa Barbara. Devant chaque fenêtre sont disposées des assiettes remplies de croquettes pour chat. Sur la table, Suzanne a sorti quelques gâteaux secs et des serviettes blanches en papier. C'est Madame Pietralba qui pose les questions. Elle parle fort, de la même façon que les profs quand ils s'adressent à Nina ou à moi, en appuyant sur chaque mot comme on appuie trop sur les touches d'un piano.
C'est Ophélie Crochet, la fille de Maya Crochet, la dame qui est décédée devant l'immeuble Sorano. Vous vous souvenez, Suzanne? Vous m'en parlez souvent. Elle a des questions à vous poser. Elle veut savoir si vous avez vu quelque chose cette nuit-là.
Suzanne fixe un chat invisible derrière la fenêtre ou un spectre qui traverse la pièce. Je suis persuadée que derrière ses yeux gris très clairs, presque aussi blancs que ceux des aveugles, elle voit des choses qu'on ne voit pas. Ses doigts ont attrapé le crayon à papier posé à côté d'un magazine de mots fléchés. Ses lèvres finissent par trembler.
« Je n'ai pas vu ta mère ce soir-là. »
Mes lèvres, à l'inverse, restent collées. Je l'ai mort à sang. Ainsi, Suzanne n'a rien vu, elle non plus. Tout comme les 5 autres étoiles de ma grande ours. Elle devait dormir la lumière allumée, ses lunettes posées sur la table de chevet. Qu'est-ce que j'espérais? Une vieille de plus de 90 ans et...
« Mais j'ai vu ton père. »
Une décharge électrique me traverse, à m'en faire exploser le cœur. Mon père. Suzanne continue de parler sans me regarder, sans davantage se tourner vers Madame Pietralba. Elle paraît toujours fixer un film invisible qui n'est projeté que pour elle derrière le rideau blanc de ses yeux. Ses doigts serrés sur le crayon à papier griffonnent des gribouillis noirs sur l'une des serviettes en papier.
Je ne dormais pas. Je ne dors presque plus jamais.
Je comprends que je ne dois plus parler. Juste la laisser regarder son film. Même Madame Pietralba, la pipelette, l'a compris.
Ton père se tenait sur la passerelle. Il y venait souvent. Au moins un soir sur deux. Il restait là, à fumer. J'ai vu passer Lazare aussi, avec son chien Argo. Mais cela, c'était plusieurs minutes avant. J'ai entendu Monsieur Femme baisser son rideau de fer. Je suis allée aux toilettes à un moment. Peut-être au moment où ta mère est tombée. L'homme à capuche était là aussi, sur la passerelle, à côté de ton père.
L'homme à capuche ? Une nouvelle décharge m'électrise. Doucement, Suzanne, mon cœur ne va pas tenir. Qui est ce type à capuche ? Personne ne m'en a jamais parlé. Cette fois, je ne peux m'empêcher de demander. Il ressemblait à quoi, cet homme à capuche ? Il faisait quoi avec mon père ? Suzanne ne répond pas. Madame Pietralba reprend, les mêmes mots que moi, mais en montant le son de sa voix. Suzanne rembobine dans sa tête. Ses lèvres tremblent à nouveau.
Il portait toujours le même pull noir, tous les soirs.
Je demande en haussant autant la voix qu'une infirmière pro. Il était vieux, jeune ?
Jeune, sûrement. Et s'il était habillé comme ça ?
Merde, Suzanne n'a aperçu qu'une ombre portant un sweat à capuche et sûrement un jean et des baskets. 99% des habitants de la cité sont habillés comme ça, même les filles. Vous n'avez pas vu son visage ? Suzanne penche de plus en plus la tête sans répondre, comme si la bobine qui tournait dans son cerveau était trop lourde. Ses doigts ont lâché le crayon. Je m'aperçois que Madame Pietralba s'agite et s'agace. La séance va bientôt se terminer. J'insiste pourtant. Suzanne, y a-t-il un détail que vous auriez remarqué ? N'importe quoi,
Il y a eu comme un éclair sur la passerelle.
Le même qui va avoir raison de mon cœur. Un éclair ?
Oui, comme le rayon d'une lampe puissante ou quand on prend une photo. Un flash. Ça les a éclairés une seconde, mais ils me tournaient le dos, ton père et l'autre.
Madame Pietralba se lève pour me faire comprendre que l'entretien est vraiment terminé cette fois. J'ai l'impression d'être dans une série policière au moment où le chirurgien vire le détective de la chambre du principal témoin intubé sur son lit médical. Je me lève à mon tour, le plus lentement possible, le temps de poser une ou deux questions supplémentaires.
Et vous n'avez rien d'autre ? Rien qui me permettrait d'identifier l'homme au pull noir ?
Suzanne tremble de partout, plus seulement des lèvres. Madame Pietralba a raison, la conversation l'a fait monter en hypertension. Elle parvient tout de même à poser sa main sur la serviette en papier devant elle et la fait glisser vers moi.
Il y avait des symboles cousus dans son dos, un peu comme des lettres.
Surexcitée, je me penche. Suzanne a dessiné les deux symboles sur la serviette au crayon à papier. Si ce sont des lettres, elles proviennent d'un alphabet inconnu.
Voilà, Lazare, voilà où j'en suis. Tu en sais autant que moi. Mon papa n'était pas seul sur la passerelle ce soir-là. Un autre homme l'accompagnait, ou une femme, pourquoi pas.
L'inconnu se tenait debout à côté de mon père. Il a pris une photo à un moment précis. Et le seul indice pour découvrir son identité est l'inscription au dos de son pull noir. Deux gribouillis dessinés sur la fameuse serviette. Je te l'ai glissé dans l'enveloppe. À première vue, on pourrait croire que c'est de l'arabe, mais ça ne correspond à aucun dessin de l'alphabet que Steve a trouvé dans son quid. Tu ne peux pas savoir à quel point Stevie en était dépité. Peut-être que c'est un dialecte ? Ou de l'arabe ancien ? On cherche chacun de notre côté ? Je ne pourrai jamais assez te remercier de tout ce que tu fais pour moi, Lazare. Surtout, porte-toi bien. Tu m'as inquiété dans ton dernier courrier. Si tu étais gravement malade, tu me le dirais. Je t'embrasse bien fort. Ta Follette qui enquête.